Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
De nombreux enfants passent leur vie dans la rue depuis plusieurs années, appelés communément Fazer, Chege, Maibobo. Ils ont trouvé refuge dans la rue pour des raisons multiples. Ça peut être des raisons d'ordre affectif, économique ou socio-culturel. Confrontés quotidiennement à l'univers hostile de la rue, ces enfants subissent des lourdes conséquences à plusieurs niveaux. Et que faire pour réussir leur insertion familiale? Norbert Lupici, docteur en criminologie et spécialiste de l'enfance marginalisée. Vous êtes à Lubumbashi. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de comment réussir l'insertion familiale des enfants de la rue aujourd'hui à Kinshasa, par exemple. D'après certaines organisations, certaines ONG, la ville de Kinshasa compte plus de 14 000 enfants qui sont dans la rue. Alors, que faire aujourd'hui? Comment procéder pour les ramener à la maison, les réinsérer dans leur famille d'origine?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est une fierté pour moi d'essayer de partager avec les nombreux auditeurs de Radio Okapi notre réflexion ou notre vision sur la manière d'insérer ou de réinsérer les enfants dans leur société. Parce que plusieurs fois, nous avons parlé de l'origine de ce phénomène. Je pense qu'il est tout à fait indiqué que l'on puisse, si vous voulez, partager avec les auditeurs notre réflexion sur la manière de les insérer ou les réinsérer.
Voilà, alors on va commencer d'abord par dire pourquoi tous ces enfants se retrouvent dans la rue et quelles sont les raisons majeures qui poussent les enfants à se retrouver dans la rue.
Mais là, c'est une question que l'on a déjà traitée plus d'une fois avec vous. Vous-même, en m'introduisant, vous l'avez effleuré. Il y a des raisons nombreuses, des raisons affectives, mais principalement des raisons socio-économiques. Il y a aussi des raisons d'ordre psychologique. Il y a aussi des raisons d'ordre culturel liées à la mentalité qui ne semblent pas évoluer par rapport au comportement de certains parents. Donc, c'est une question très ouverte, il y a beaucoup de raisons, mais aujourd'hui, moi, je préfère qu'on se focalise plus sur le contenu d'un programme de réinsertion digne de ce nom.
Voilà. Donc il y a plusieurs raisons qui font que les enfants se retrouvent dans la rue. Il y a certains qu'on accuse d'enfants sorciers, tout ça. Alors aujourd'hui, est-ce que, par exemple, pour un enfant qu'on accuse des sorciers, tout le monde sait à la maison que c'est un enfant, il est sorcier. Alors comment réussir son insertion? Est-ce que dans la famille, on va encore l'accepter?
Ah, là, c'est une bonne question. Mais vous savez, lorsque nous parlons des raisons d'ordre culturel, c'est en fait un changement de mentalité. Hein? Vous allez voir que ces enfants-là qui sont étiquetés comme enfants sorciers, c'est généralement une construction sociale. C'est généralement un prétexte qui est monté par certaines familles pour des raisons inavouées. On étiquette un enfant parfois gratuitement, une façon de chercher la voie de son éviction en dehors de la famille. Donc, s'il faut proposer un remède par rapport à la catégorie d'enfants qualifiés de sorciers, c'est inviter d'abord les parents et toute la communauté à changer de mentalité. Qu'on n'est pas né sorcier. Parfois, c'est la société qui rend sorcier.
Voilà. Alors, comment procéder qui doivent amener des démarches, voir la famille, discuter avec la famille pour qu'on accepte encore l'enfant? Voilà, tout ça, c'est pas facile, j'imagine.
Je crois que c'est ça la raison d'être d'un programme d'insertion digne de ce nom. Parce qu'en fait, quand est-ce que le problème de l'insertion se pose dans la société? Le problème de l'insertion se pose dans la société lorsqu'on constate qu'une catégorie sociale, un groupe d'individus vit en marge. Alors nous devons essayer de leur trouver une place non problématique. C'est ça, en fait, le sens étymologique de l'insertion, c'est-à-dire aider la personne à retrouver la place normale dans la société. Et c'est là, franchement, que je voudrais focaliser mon propos de ce jour. Parler de l'insertion, c'est très facile, mais il y a des aspects importants qu'il faut considérer. Hein. Et là, je préfère monter sur les épaules d'un auteur appelé Paul Banzulu, qui, lui, relève quatre aspects importants en matière d'insertion.
Lesquels ?
Le premier aspect, il est relatif d'abord au dispositif. Vous voyez, lorsque vous appelez une insertion, vous voulez réaliser de l'insertion, il y a des efforts à fournir sur le plan matériel. Et ça, c'est la tâche qui incombe au pouvoir public. Donc, on ne peut pas parler de l'insertion ou de la réinsertion s'il n'y a pas d'institution, s'il n'y a pas des structures d'encadrement qui sont érigées. Et d'ailleurs, le même auteur pense que c'est lorsqu'on voit les différents dispositifs arrêtés par un gouvernement qu'on sait voir comment chaque société répond à la demande d'insertion. Ça, c'est le premier aspect très important. Le deuxième aspect aussi, c'est en fait la manière de mener l'insertion. Très souvent, on s'adonne aux actions tout à fait figées. Lorsqu'on a construit une école, on pense que voilà, les enfants, une fois internés, la réinsertion est réalisée. Non. La bonne manière de mener l'insertion consiste à considérer cette opération comme un processus, c'est-à-dire tout un cheminement qui passe par des étapes et qui mérite un suivi régulier. Ça, c'était le deuxième aspect. Mmh. Et le troisième aspect qu'il faut considérer quand on parle d'une insertion digne de ce nom, c'est en fait l'ensemble des compétences à communiquer. On ne peut pas parler de réinsertion ou d'insertion s'il n'y a pas un programme qui prévoit un certain nombre de compétences sociales et professionnelles à communiquer. Et enfin, le dernier aspect, c'est il est relatif au rapport entre les sujets à insérer et leur environnement. Et ça, ça relève de ce qu'on appelle le rapport écosystémique. Donc, on doit vraiment faire attention en sorte que les sujets à réinsérer puissent entretenir des rapports tout à fait corrects avec leur environnement, parce que l'environnement de vie, et c'est en fait le cadre dans lequel les jeunes doivent apprendre à composer. On doit éviter donc de placer les jeunes dans un environnement qui leur est hostile, qui est hostile à leurs désirs. Voilà en bref comment je peux relancer le débat.
Bien. Comment réussir la réinsertion familiale d'un enfant de la rue? Vous avez des questions, préoccupations? Appelez-nous au 081-890-6394. Prenons par exemple un enfant dit sorcier, il a passé plusieurs années dans la rue, il a appris à voler, à fumer, à prendre la drogue et à faire un tas de mauvaises choses. Alors maintenant, à la maison, on l'a rejeté, l'environnement est hostile. Pensez-vous que la réinsertion sera possible dans sa famille?
Je me répète, cette question m'invite à me répéter. Mais je crois que la grande bataille, la bataille prioritaire, c'est en fait l'attitude que nous, les parents, nous, les adultes et nous, sociétés, développons vis-à-vis de ces jeunes gens-là. Mais si nous considérons que l'étiquette des sorciers, c'est une étiquette réparable, déjà, on est bien parti. Mais si, par contre, on pense qu'un sorcier, c'est un rébus, quelqu'un qu'on ne peut pas récupérer, alors on part sur une très mauvaise base. Donc, c'est un changement de mentalité, un changement de vision qu'il faut d'abord prôner lorsqu'on a affaire à ce genre d'enfants.
Alors, j'imagine, Norbert, c'est que vous avez parlé, premièrement, il faut mettre en place une structure d'encadrement. Alors, pour le cas d'un enfant sorcier, cette structure doit d'abord aller au préalable, voir la famille, discuter avec la famille, les amener, les convaincre pour accepter le retour de l'enfant.
Oui, mais c'est ça. Il y a tout un travail à accomplir. Mais lorsque je parle de l'aspect qui est relatif aux compétences à communiquer, c'est-à-dire il y a tout un personnel qui est habilité à monter tout un programme pédagogique et qui est habilité à, si vous voulez, à communiquer ses compétences. Mais généralement, quand on voit comment fonctionnent les différents centres d'encadrement, il y a toujours un service qu'on appelle service social qui s'occupe, si vous voulez, de la médiation entre les enfants les enfants qualifiés de sorciers et leur famille.
Oui.
Et parfois, si la médiation est bien menée, et ça réussit. Nous avons des cas tout à fait palpables où la médiation a été bien menée, mmh. et cela a donné de bons résultats. Mais ça ne réussit pas toujours. Il y a aussi des cas où ça échoue, l'enfant est totalement rejeté.
Bien, l'enfant est totalement rejeté. Alors, prenons par exemple le cas d'un enfant, un enfant soldat qui a été recruté. Bon, voilà, il est démobilisé, on doit le ramener dans sa famille. Comment procéder?
L'histoire de notre pays nous édifie suffisamment par rapport à la réinsertion des enfants soldats. Il y a beaucoup de programmes qui ont été montés dans ce pays. Et si ma mémoire est bonne, il y a ce qu'on a appelé DDR, désarmement, tout ça. Nous avons eu la chance de critiquer ces programmes DDR. De nos recherches, nous avons trouvé, c'est pour cela que je préférais commencer par étaler d'abord les aspects d'une réinsertion digne de ce nom. Parce que si on revient à ce fameux programme qui s'était chargé comme objectif la réinsertion des enfants soldats, mais on a remarqué que ce programme avait présenté beaucoup de faiblesses. La première faiblesse était laquelle? C'était, selon notre analyse, l'insuffisance et l'incompétence des ressources humaines. Donc des animateurs avaient présenté des lacunes importantes. Et la deuxième faiblesse de ce programme, c'était la définalisation des fonds alloués au programme. Il est très bien beau de parler programme, mais quand les fonds sont alloués, est-ce que les animateurs sont en mesure de les gérer efficacement? Aussi, un autre élément très important qui a marqué, si vous voulez, les limites notoires de ce programme, c'était le fait d'avoir considéré cette réinsertion dans la soldat comme une action spontanée. On a pensé qu'on pouvait simplement leur remettre $100 ou leur acheter un vélo et c'était tout. Donc le programme a accusé des limites par rapport au temps. C'est pour cela, lorsque j'ai relevé les aspects, je dis, nous devons changer la manière de faire les choses.
Voilà.
Parce que généralement, la plupart des programmes d'encadrement échouent parce qu'il n'y a pas une base théorique assez solide sur laquelle on s'appuie.
Bien. Comment réussir l'insertion familiale d'un enfant de la rue? Ça peut être aussi un enfant soldat. Ogi Bendelo est à Kikwit, dans la province du Bandundu. Israël Nzezoule nous appelle de Butembo au Nord Kivu. Vous voulez également participer à cette émission? Composez les 081-890-6394.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Ogi Bendelo, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Gachama. Je salue aussi notre invité, M. Norbert.
Oui, Ogi, on vous écoute.
Merci, Jody. En fait, les raisons sont nombreuses qui font que les enfants deviennent sorciers et enfants de la rue, selon ce qu'a dit M. Robert. Il a même parlé des dispositifs, des programmes et consorts. C'est pourquoi je m'adresse à M. Robert.
Norbert,
oui. M. Norbert, avec sa spécialisation, il cherche à remédier la situation, bien sûr, c'est-à-dire la réinsertion, quoi. Et maintenant, je veux savoir, parce que j'ai une petite. Bon. Il y a des enfants, donc ces enfants-là, ce sont comme des aimants qui cherchent à tirer des métaux. Et maintenant, lorsqu'on cherche à remédier cette situation, donc lorsqu'on cherche la réinsertion, et pourtant, ceux qui sont les enfants de la rue, monsieur Jody, ils influencent d'autres enfants à devenir comme eux. Ceux qui sont aussi sorciers cherchent aussi à influencer d'autres enfants à devenir sorciers. Et maintenant, je ne sais pas. Ils vont d'abord chercher, le monsieur Norbert va d'abord chercher à interdire cette influence-là d'influencer les autres de devenir ce qu'ils sont, ou bien il va chercher seulement à remédier la situation. C'est ce qui me rend très inquiet, monsieur Jody. C'est ce que j'ai voulu aussi savoir auprès de notre invité. Je vous remercie beaucoup et bon week-end à vous tous.
Merci. Israël Nzenzoule de Butembo, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, en fait, j'aimerais juste savoir si comment on peut réintégrer un enfant qui, avant de quitter la famille, il avait fait une faute grave qui a poussé la mort de l'un de ses parents. Quels sont les mécanismes pratiques qu'on peut entreprendre pour réintégrer cet enfant avec qui puisse réintégrer la famille où il a, avant de quitter, il avait causé la mort de l'un de ses parents, j'ai dit.
Oui, il a causé comment ça s'est passé?
En principe, c'était par de mécanismes graves et il a tapé lui-même sa mère et sa mère a saigné tellement qu'il était loin de l'hôpital. C'est comme ça que la maman a décédé. Alors, cet enfant, il est aujourd'hui dans la rue, il se promène XY dans des endroits et il fait du n'importe quoi, certainement à l'atteinte à la société. Mais maintenant, comment on peut faire l'intégration d'un enfant comme celui-ci?
Merci. Norbert Lupici. Norbert Lupici, on vous écoute.
À cet échange. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord rappeler à tous les auditeurs que je ne prétends pas avoir le monopole des éléments, des réponses à toutes les questions. Donc j'essaye de partager mon expérience dans les limites de mes capacités. Alors, j'en viens au premier intervenant qui parle des enfants sorciers qui influencent les autres. Mais vous allez voir, mon cher frère, que si les enfants sorciers continuent à s'influencer mutuellement, cela montre qu'ils ne sont pas encadrés. Et lorsque j'ai étalé les quatre aspects fondamentaux d'une réinsertion digne de ce nom, j'ai parlé de la construction des dispositifs. C'est alors, conscient des possibilités d'influence qui peuvent exister entre les jeunes, qu'on peut déjà bien penser la manière de construire ces structures d'encadrement. Donc, moi, je pense que si les jeunes enfants dits sorciers continuent à s'influencer, cela montre qu'ils ne sont pas encadrés. Mais en même temps aussi, cela nous aide à bien penser la manière de construire les dispositifs pour éviter qu'ils puissent s'influencer. Voilà comment je tente de répondre à la préoccupation du premier intervenant.
Oui.
Concernant le deuxième intervenant, qui parle des enfants qui auraient commis une faute grave, par exemple la mort d'un parent.
Mmh.
Mais, messieurs, nous devons être conséquents. Quand on cherche à réparer, même sur le plan politique, mais je crois que on doit avoir le courage de regarder la vérité en face. Et on doit s'efforcer de corriger le mal, non pas par le mal, mais par le bien. Donc c'est une pilule amère à avaler, mais on n'a pas d'autre choix. Si l'enfant a déjà tué, mais est-ce qu'on va lui demander de ressusciter la personne qu'il a tuée? Non. Mais ce qu'il y a, c'est simplement de voir l'avenir, voir comment on peut surmonter l'acte grave commis pour voir les choses en positif. Donc, il y a vraiment un effort à fournir sur le plan individuel au niveau des animateurs impliqués.
Dieudonné Touloumé nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
On vous écoute.
D'accord. Merci de la parole, monsieur Joly. J'aimerais juste demander à l'invité quel conseil il peut donner aux parents qui ont mis au monde leurs enfants, mais qui pour l'instant ne savent plus où se trouvent encore ces derniers, afin qu'ils s'interrogent sur leur insertion familiale. Enfin, je lui pose encore une question de savoir si la stigmatisation peut être aussi classée parmi les raisons de coupure familiale. Merci et bon week-end à vous.
Bien, merci. Norbert Lupici.
Très bonne question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par le deuxième volet de son intervention. Effectivement, je réponds par l'affirmative que la stigmatisation est l'une des raisons principales de l'éjection de beaucoup d'enfants dans la rue. Mais quand on parle des enfants sorciers, mais je l'ai dit, parfois c'est pour des raisons inavouées qu'on colle, donc consciemment on colle des étiquettes à l'enfant. Et vous savez, la criminologie nous apprend que à force de coller à quelqu'un une étiquette, la personne finit par accepter l'étiquette et il commence à vivre en conséquence. Donc, nous devons vraiment faire attention. C'est ainsi que parfois, même dans nos rencontres entre parents, on donne parfois des conseils tout à fait moraux pour demander aux parents de peser les mots qu'ils utilisent à l'endroit de leurs enfants. Si une maman ne fait que répéter à son enfant, toi tu seras un bandit, en tout cas toi à te voir, tu seras un voleur. En tout cas, c'est dangereux. La criminologie nous montre qu'à force de répéter une stigmatisation, une étiquette, la personne peut l'admettre et commencer à vivre en conséquence. Alors, par rapport à au premier volet de son intervention, les parents qui abandonnent les enfants. Là, je préfère tout simplement vous renvoyer, monsieur, à notre loi, la nouvelle loi sur la protection de l'enfant en RDC. Il y a des dispositions punitives à l'endroit des parents qui abandonnent les enfants. Mais malheureusement, beaucoup de parents, ils disparaissent dans la nature et on a ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants sans repère familial. Ici aussi, je crois que ce qu'on peut faire, c'est faire appel à la bonne conscience des parents. Celui qui reconnaît que son enfant est dans la rue, il ne faut pas avoir honte, il faut aller chercher l'enfant qu'on a appelé sans sa volonté à venir au monde.
Voilà, mais il y a certains enfants qui se plaisent dans la rue et n'ont plus envie de rentrer à la maison.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous ai dit que les raisons de la présence des enfants dans la rue est une question extrêmement complexe. Je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que je l'ai déjà fait plus d'une fois sur les mêmes antennes. Il y a parfois des raisons. Il y a des enfants qui sont dans la rue essentiellement pour des raisons ludiques. Donc, les enfants, ils veulent passer leur été de la vie, ils veulent briser l'interdit. Alors, ils préfèrent se dégager de l'emprise parentale pour vivre une liberté, hein, advienne que pourra. Donc, il y a des raisons. Mais selon nos études, cette raison-là est beaucoup plus valable dans des sociétés industrialisées, des sociétés développées. Au Canada, par exemple, il y a ces enfants-là qu'on appelle les crevettes. Il y a des recherches qui ont montré qu'il y a des enfants qu'on appelle des crevettes qui quittent le toit familial, bien que vivant à l'aise, et ils préfèrent aller vivre leur liberté dans la rue. Mais par rapport à notre pays, c'est principalement pour des raisons socio-économiques que les enfants sont dans la rue.
Bien. Félicien Muzola est à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Félicien.
Oui, je voulais d'abord saluer l'opportunité de ce criminologue, collègue de travail. Donc, je suis psychologue, j'ai un cabinet de consultation psychologique à Lubumbashi.
Merci.
J'ai travaillé avec les enfants dans le territoire de Puito, Moba.
Ouais.
Donc, j'ai connu beaucoup d'enfants comme ça, les enfants distorsiés, les enfants abandonnés, surtout les enfants démobilisés militaires. Ces enfants ont un problème dans la société, dans la réinsertion. Ces enfants ne peuvent pas recevoir un $100 ou un vélo et il est réinséré dans la société. C'est un danger parce que ces enfants ont violé. Ces enfants ont été poussés à tuer. Ces enfants ont été contraints, ils ont été forcés d'entrer dans l'armée. Donc le processus de la réinsertion devrait, comme a dit le criminologue, il devrait y avoir une structure d'encadrement,
oui.
Un processus vraiment que moi j'appelle psychologique et social. Ces enfants doivent être écoutés psychologiquement,
oui.
Ils doivent être soumis à des séances de psychothérapie pour que les enfants puissent bien entendu rentrer dans l'école. Parce qu'ils ne seront jamais attentifs s'ils sont dans l'école, ils ne seront jamais tolérants envers de violence envers les enseignants. Ces enfants devraient normalement être écoutés par un psychologue. Normalement, avec le criminologue, comme il dit là,
oui.
Mais des séances psychothérapeutiques sont très, très encouragées pour des cas des enfants à Lubumbashi, partout ailleurs.
Mais est-ce Félicien,
le criminologue pourrait vraiment parler avec nous un peu pour que nous essayions, comme il a dit, des dispositifs. On peut vraiment faire un travail d'ensemble,
oui.
Essayer de nous partager les idées.
Alors Félicien, est-ce qu'à Lubumbashi, ces genres de structures existent qui doit la mettre en place? Elle doit être constituée de qui? Justement, sûrement, il faut qu'il y ait des psychologues. Alors, parlez-nous un peu de ça. Est-ce qu'il y a une structure pareille à Lubumbashi?
Bien sûr. D'ailleurs, moi, j'ai une structure que je viens de monter il n'y a pas longtemps. C'est une structure d'encadrement d'enfants. les femmes victimes de violences sexuelles, les personnes victimes de torture, n'est-ce pas? Ces personnes sont parfois stigmatisées, ils ont des traumatismes post-conflit. Alors, ces personnes ne peuvent pas être rétablies par le fait simple qu'on leur donne un vélo ou 100 dollars. Il faudrait des séances de psychothérapie. Moi, je pense qu'il y a d'autres structures comme AAST, Association d'aide aux survivants de la torture. Il y a aussi la SOPSI, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs une organisation mère. C'est la société des psychologues, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a au moins des structures où il y a des psychologues formés.
Oui.
Mais il y a aussi d'autres structures où il y a des assistants psychosociaux. Mais où il y a des psychologues, moi je pense qu'il y a trois, la SOPSI, n'est-ce pas? Il y a aussi ce que moi je viens de créer, le cabinet de consultation psychologique, et il y a aussi AHT, où il y a vraiment des psychologues qui encadrent ces personnes-là.
Bien, merci Félicien. Muzola de Lubumbashi, nous avons en ligne Prince Mputu de Kinshasa. Prince, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je salue d'abord tous les auditeurs de Radio Kapi, et je salue aussi l'intervenant et vous, le présentateur. Okay. Ma petite contribution est pour aider, nous travaillons aussi dans le même sens que l'intervenant du jour. Mais c'est que nous avons, je dis d'abord que nous avons une association qui s'appelle ASP Loser la Vie, qui s'occupe aussi de l'enfant dissocié. C'est ainsi que nous voulons faire comprendre aux autres que la méthode qu'ils utilisent de la réinsertion là, des fois ça ne marche pas parce qu'on n'attaque pas les vrais problèmes.
Alors vous, par exemple, Prince, vous utilisez quelle méthode pour réinsérer les enfants dans leur famille?
Nous utilisons, nous prévenons. Nous ne travaillons pas avec les enfants qui se trouvent dans la rue, mais nous travaillons avec les enfants qui se trouvent dans leur famille d'accueil. Par exemple, quand il y a un parent qui est décédé, bien, tous les parents qui sont décédés, l'enfant se trouve soit chez la tante, chez l'oncle, ainsi de suite. Alors, nous allons travailler avec cette famille en payant les frais scolaires,
oui.
Nous payons les soins de santé et nous assurons un minimum de survie à cette famille, à cet enfant, de manière à ce que cet enfant demain ne se retrouve pas dans la rue. Nous avons constaté que ces problèmes de la réinsertion, on bouffe l'argent, peut-être un peu inutilement, au lieu d'attaquer les problèmes à la source. Ainsi, nous avons même une campagne que nous avons menée ici pour combattre ces phénomènes-là d'acquisition des enfants sorciers. Les enfants sont en train de les faire dans la ville de Kipit, à Kenge, à Bulunga, à Masimanimba.
Alors, Prince Mputu, si je comprends bien, donc d'après vous, il faut, pour ce genre de situations, il faut beaucoup plus prévenir que guérir. Hein.
Oui, nous avons
trouvé... Vous travaillez beaucoup plus sur la prévention.
Oui, nous travaillons en amont, nous évitons ce que l'enfant aille dans la rue. Parce que quand l'enfant va à la rue, c'est difficile maintenant de réinsérer cet enfant dans la rue. C'est ainsi qu'il faut attaquer...
Dans la famille.
Oui, c'est ça.
Merci, Prince. César Mouroula, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Non, je suis à Bukavu. Bonjour.
Vous êtes plutôt à Bukavu, César. On vous écoute, bonjour.
Oui. J'aimerais aussi partager ensemble avec notre invité de ce jour le sujet avec les enfants qui sont de la sorcellerie d'abord.
Oui.
Parce que nous faisons aussi cette école de la paix ici à Bukavu, dans une communauté qu'on appelle Saint-Égide à Ekabana. Mais oui, ce que nous avons remarqué, vous allez trouver, monsieur le journaliste, qu'il y a les enfants, par exemple, qui ont été victimes depuis l'âge de 6 ans, par exemple. Et c'est depuis cet âge-là qu'ils ont été chassés de leur famille.
Oui.
Et à partir de maintenant, vous allez trouver que si vous demandez à ces enfants d'où est-ce qu'ils sont venus, ils ne sont pas en mesure de reconnaître encore leur famille de provenance. Alors, j'aimerais demander à notre invité, quelles sont les méthodes qui peuvent encore, qu'on peut encore appliquer en fait de réintégrer ces enfants. Parce que vous allez trouver que ces enfants n'ont pas de famille. Et une fois ces ONG qui se chargent de ces enfants tombent en faillite, quels seront les sorts de ces enfants? Et ma deuxième question se base sur les enfants de la rue. Qui nous faisons encore les services avec tous les samedis à la cathédrale Notre-Dame de la Paix à Bukavu.
Oui.
Et vous allez trouver, monsieur le journaliste, aussi que ces enfants, trop souvent, ils sont aussi trop frustrés, je dirais. Vous allez trouver qu'ils ne veulent pas même encore occuper et revenir dans leur famille.
Mmh.
Parce que des fois qu'ils ont peur de revenir dans leur famille face aux vies qu'ils menaient dans leur famille, je dis. Mais vous allez aussi trouver quoi? Vous allez trouver qu'il y a aussi une méthode que nous utilisons.
Laquelle?
Pour les intégrer, oui. Donc, je voulais dire que pour les réintégrer ces enfants dans leur famille, oui, il serait d'abord mieux, en premier temps, qu'on puisse créer donc des petites institutions ou des petites maisons où ces enfants doivent d'abord recevoir les premières éducations d'abord. Puisque il y avait un bon moment que ces enfants n'avaient pas au banc de l'école et ils n'avaient pas encore une éducation fiable.
D'accord. César, on comprend donc avant de les ramener à la maison, il faut d'abord une structure où on va les apprendre, où ils vont échanger avec des psychologues. Merci à tous les auditeurs pour ces interventions. Norbert Lupici, vous avez suivi, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de la pertinence des interventions faites. Par rapport au premier intervenant dans cette deuxième série d'interventions, le psychologue de Lubumbashi, je me suis sincèrement régalé quand je l'entendais parler.
Oui.
Franchement, sa vision est également la mienne. Je suis content qu'il puisse insister sur l'aspect processus. Donc, la réinsertion, c'est pas une opération spontanée que l'on doit faire par un coup de bâton magique, non. C'est une opération qui doit être minutieusement étudiée, qui passe par des étapes et il y a toujours un suivi si on veut arriver à un bon résultat. Et je voudrais aussi rejoindre ce même intervenant en disant que par rapport à notre expérience, il n'y a que l'approche pluridisciplinaire qui peut conduire à des bons résultats. Mmh. Est-ce que les équipes qui interviennent auprès des enfants sont pluridisciplinaires? Est-ce qu'on veille à ça? Je ne sais pas. C'est une question que l'on peut poser à ceux qui dirigent la société. Mais, donner un conseil,
oui,
il faut faire attention à la sélection des intervenants, des animateurs.
À part les psychologues, psychologues qui doivent aussi faire partie de l'équipe d'encadrement?
Ça saute aux yeux. Les sociologues ne peuvent pas manquer. Les criminologues ne peuvent pas manquer. Et il y a aussi, bien entendu, des personnes aguerries en ce qui concerne les données de terrain. Ce sont les travailleurs sociaux. Mmh. Je sais qu'il y a des structures qui existent. Mais tout ceci, vous savez, mon frère, il faut une action concertée au niveau des intervenants.
Oui.
Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes limités par le temps. Il y a par exemple un chercheur de l'université qui a montré que la plupart des programmes d'encadrement des enfants échouent tout simplement parce que il y a absence d'une réponse concertée entre les organisations des terrains. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. C'est pour dire que je souscris totalement à la pensée du psychologue qu'il faut une approche pluridisciplinaire. Et les psychologues ont leur place au centre de cette structure.
Oui. Bien.
Alors,
César, vous avez posé la question de savoir comment un enfant qui est dans la rue depuis l'âge de 6 ans, il a grandi dans la rue, il ne reconnaît plus sa famille, sa famille d'origine. Alors là, comment procéder? On se trouve dans un cas complexe, devant un cas complexe.
Selon l'ordre des interventions, il y a aussi notre ami de Kinshasa qui a parlé d'une structure qui est en train d'opérer au niveau des enfants qui ne sont pas encore dans la marge. Mais je crois que sur le plan scientifique, la terminologie appropriée par rapport à ces enfants-là, ce n'est pas la réinsertion, c'est plutôt la socialisation. Lorsqu'on a affaire aux enfants normaux, tout ce que l'on fait pour éviter qu'ils tombent dans des situations problématiques relève de la socialisation. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais la réinsertion concerne beaucoup plus des personnes qui sont déjà tombées en marge. Et on veut les ramener, on veut leur trouver une place peu problématique. Alors, si nous revenons à l'intervention des messieurs César, qui parle d'un enfant de 6 ans qui se retrouve dans la rue et qui n'a pas de repères au niveau de la famille. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ces enfants existent. Je me rappelle une fois à Kinshasa, nous avons participé à un atelier où on parlait non pas des enfants de la rue, on parlait plutôt des enfants sans rupture familiale. Donc ces enfants existent. Mais nous devons reconnaître que tous les enfants d'abord appartiennent à l'État. C'est la raison pour laquelle les parents n'ont pas le droit de traiter l'enfant comme il l'entend. Mais s'il n'y a pas de repères familiales, mais c'est à l'État, au gouvernement, au pouvoir public de prendre ses responsabilités. Parce qu'en fait, pourquoi nous parlons de la réinsertion sociale? Nous parlons de la réinsertion sociale parce que la société évite d'héberger, d'avoir en son sein des personnes qui ne sont pas capables de concourir au développement. C'est ça. Alors, on doit réinsérer les personnes qui sont en marge pour qu'ils deviennent des acteurs positifs, entre guillemets. Voilà.
Alors, si, donc, en définitive, le grand rôle revient à l'État, au ministère des Affaires sociales, d'organiser les structures qui doivent encadrer ces enfants.
Comme toujours, monsieur le journaliste, on ne cessera jamais de le dire. L'État est l'acteur principal organisateur de la vie en société. Mais considérez les aspects que j'ai évoqués, autour desquels tourne notre débat.
Oui.
Mais la construction des infrastructures, mais c'est l'État. Quand bien même il y a aussi des privés qui font un geste. Mais principalement, c'est à l'État que reviennent ces tâches-là. C'est ça, hein, c'est l'une des fonctions des missions régaliennes qui reviennent à l'État. C'est à l'État de faire beaucoup.
Bien. Norbert Loupéti, docteur en criminologie et spécialiste de l'enfance marginalisée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous intervenez depuis le studio de Radio Okapi à Lubumbashi. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui sont intéressés par ce que vous venez de dire et qui voudraient poursuivre les discussions après l'émission. C'est possible d'avoir vos coordonnées?
C'est très simple, mon cher ami. Le savoir est partageable en toute connaissance de cause. Mes coordonnées, c'est mon numéro peut-être,
oui.
Mon téléphone.
Oui, allez-y.
Ils peuvent m'atteindre au 081
oui.
53 77 026.
081 53 77 026. Merci Norbert Loupéti.
Alors, pour ceux qui habitent Lubumbashi, on m'a rejoint à l'école de criminologie de l'université de Lubumbashi.
D'accord. Merci et bon début de week-end.
Merci beaucoup pareillement et à tous les auditeurs. Merci.